1, 2, 1, 2, 3.
Peux-tu me faire une voix plus claire?
Good morning, Vietnam!
Tonight we present a very warm little story called Kill with Time.
On a un peu dans le studio, on laisse voir, on lui met un casque, il parle dans le micro.
Il suffit que tu fermes ta gueule.
Bonjour à tous, vous êtes sur PFM 99.9 en compagnie de Décadré avec Benjamin, Antoine et Lionel Ange.
C'est cool, ça va arriver les voisins.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Ça va, Ange?
Oui.
Antoine?
Ouais, ça va super. Meilleur vœu à tout le monde.
Eh oui, c'est vrai.
Bah oui, on est en 2017.
Et oui, on est en 2017 et c'est avec un mois de retard qu'on revient pour une nouvelle émission inédite sur les ondes de PFM.
On n'a jamais eu de retard, c'est pas vrai.
Ah, c'est
en disant qu'on a eu certaines vacances.
Voilà, on a eu des grosses vacances, on va dire, et puis aussi beaucoup d'indisponibilité au final.
Certains qui ont eu de la chance.
Ouais, non, c'est vrai, on va pas s'en plaindre. On va pas s'en plaindre.
Donc aujourd'hui, vous êtes avec les Décadrés sur PFM 99.9. Donc oui. C'est la rentrée. Vous avez mangé du foie gras, vous avez beaucoup bu, maintenant vous êtes en train d'essayer de perdre tout ça. Et Ange va vous proposer une chronique sur un film où justement on cuisine sur la peau, sur l'humain. Et peut-être pour essayer de perdre un peu
on va parler ce qu'on de a gagné. Porn.
Vas-y Ange.
Donc mesdames et messieurs, il est temps de vous parler d'un monde. Un monde où les Américains sont les méchants face aux Américains. Un monde où Saddam Hussein peut mourir plusieurs fois. Un monde où l'on peut faire ses courses avec un avion de chasse. Un monde où le président américain est un vrai con. Enfin bref. Je vais vous parler du monde magique qui a illuminé mon enfance à côté de la série Y a-t-il un flic ou un pilote ? Le monde merveilleux de la parodie de Top Gun. Hot Shot. Ouais, je sens que vous avez envie de m'écouter en fait.
Bah
à
moi
ce
je
moment-là.
Suis tout oui.
Sachant,
hein,
que, sachant que le 2 est pas une parodie de Top Gun.
Mais je, oui, non, mais là je parle de Hot Shot 1. Oui. Le 2, c'est Rambo.
T'es toujours dans la provocation.
Ça commence à bien faire, Benjamin. C'est la nouvelle année, il va falloir prendre de bonnes résolutions.
Ouais,
c'est lui qui a parlé de moi.
On n'est plus vraiment en nouvelle année, on va se calmer, les gars. Hein. On est en retard, je vous rappelle.
Oui, c'est vrai qu'on est en retard, on est beaucoup en retard. Mais bon. On n'est pas en retard pour parler de Hot Shot, qui est un film sorti en 1991.
Ah non, il est juste en retard de plus d'une vingtaine d'années, ça devrait aller.
Bah 1991, quoi, il est sorti, donc...
J'ai pas envie de faire le calcul, ça.
Ouais, moi non plus, mais si, ça fait 23, 24, 25, hein? 26, 27, 28, 29. On va faire le calcul. Enfin bon...
Il a fait un bac L, hein.
Oui. Donc réalisé, que je disais donc, par Jim Abrahams, réalisateur de Y a-t-il un flic pour ce Hollywood et le président, et scénariste de Scary Movie 4. Donc Topper Harley, interprété par Charlie Sheen, le meilleur pilote de sa promotion, est poursuivi par une faute commise par son père 20 ans plus tôt. Et c'est donc avec ce traumatisme de conflit paternel intérieur qu'il devra réussir sa mission. Ta-ta-ta! Enfin, voilà. Donc ce film est une des merveilles du monde de la parodie américaine. Et je vous conseille fortement de le voir si vous ne l'avez pas encore fait. On oscille dans ce film entre un humour tout à fait subtil, discret et celui totalement assumé et exagéré. C'est pour cela qu'il faut être parfaitement concentré et en alerte pour ne rater aucune des petites fantaisies que nous propose le réalisateur. Donc pour tout vous dire, j'ai encore découvert quelques gags tout récemment. Franchement, je suis toujours surpris par tout ce qui est fait dans ce film. Donc dans ce film, les codes du cinéma et surtout des films qu'il parodie sont parfaitement respectés. C'est ainsi la raison pour laquelle il reste un film sérieux et qui n'enchaîne pas gag sur gag comme on plante notre main dans un pot de pop-corn. Donc oui, je sais, la comparaison est pas terrible, mais j'ai pas trouvé mieux. Donc bon, aucun commentaire, vous deux. Hein.
Ah bah j'en ai un quand même.
Oh merde.
Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood et a été réalisé par Peter Segal en 94. Et pas par Jim Abrams.
Ah bon, ah bah j'ai eu une mauvaise info alors.
Mais je t'aime quand même.
Oui, mais merci. Merci d'avoir rectifié tout de suite.
Non, c'est un pilote dans l'avion par contre qui a été fait par.
Ah bah ok, voilà. ok, c'est bon. Ah. Mais il a peut-être travaillé quand même dessus avec en tant que scénariste, je pense, ou bien.
On s'en fout, c'est pas lui qui l'a réalisé.
C'est pas vrai, c'était juste une erreur.
Tu as menti.
Arrêtez de m'embêter avec ça.
Et sinon oui bah c'est formidable, c'est parodie américaine, hein.
Bah oui,
et d'ailleurs c'est un film assez culte et pas forcément connu qui a lancé tout ce beau monde. C'est un film de Steven Spielberg.
Attends,
qui s'appelle 1941.
Ah, je pensais que t'allais dire E.T., mais bon.
Non. Non, c'est 1941 qui a lancé toutes ces vagues de parodies complètement loufoques et borderline quasiment.
Ah bah oui. Mais c'est magique, toutes ces parodies qui sont faites et qui sont très bien respectées, parce qu'on a dans l'univers des parodies, on va dire, on en a plein, mais la plupart ne sont pas l'humour vieux de cette époque-là, des années 90-80. C'était quand même un sacré humour qui reprenait c'est... bien les codes, en fait. Il respectait parfaitement bien les codes du cinéma, et c'est ça qui rendait ce film à la fois sérieux et totalement décalé et déjanté, quoi.
C'est-à-dire que c'était pas que des films de référence comme on pourrait avoir aujourd'hui quand on voit Meet the Spartans ou... Je sais plus qu'ils ont fait la parodie de Twilight là.
Vampire Sex, ça... ouais, mort-moi sans ça, hésitation.
Même moi qui n'aime pas Twilight, même la parodie, je l'aime pas, tu vois.
C'est très très mauvais. Oui, voilà.
Ça, c'était des films où parfois il fallait être fan pour pouvoir savoir.
Les dernières bonnes parodies de films, pour moi, mine de rien, ça restera Scary Movie 1 et 2. C'est...
Ah, moi j'aurais dit 3 et 4.
Parce ah ouais.
C'est David Zucker qui a fait d'ailleurs, y a-t-il un flic qui a fait le 3 et le
4 Ouais, le 4 oui, mais le 3 je suis pas non plus...
C'est dans lequel avec Charlie Sheen justement?
Bah c'est dans le 3 et dans le 4.
C'est dans le 3.
Parce que le 3 il est quand même bien réussi aussi.
Le début du 4 c'est Charlie Sheen qui meurt parce que son zizi grossit.
Non, c'est le 3.
Ah non, ça c'est le 4. Non, le 3 c'est signe.
On va pas se battre. Le 4 c'est sur la guerre des mondes et le 3 c'est sur The Ring.
Non, le 3 c'est signe, The Ring.
Oui, et bah justement, c'est là qu'il y a Charlie Sheen.
Oui, c'est ce que je viens de dire. Mais le 4, il est au début du 4.
Ouais, il est au début du 4.
Il est au début du 4.
Oui. T'as son zizi qui grossit, puis il tombe d'une tour.
Il veut prendre des somnifères ou je sais pas
ah
quoi,
oui,
et puis il se trompe avec le
Viagra. Mais oui, c'est exact. Mais putain, bah ouais, je suis con.
Après, t'as les iPods géants qui débarquent.
Bah ouais, c'est vrai, bah putain, ouais. J'ai complètement inversé. Bah oui, bah mais en fait, comme il meurt au début, j'ai pu penser au fait qu'il était dedans.
Enfin bref, pour en revenir sur Hot Shot, on reste donc sur le schéma type du film d'action avec le héros exclu qui est appelé à l'aide pour sauver la mise à tout le monde, mais il s'avère que c'est un coup monté, mais il ne sait pas, etc., etc. Donc quand on regarde le synopsis, à vrai dire, on ne s'attend pas du tout à cela, et c'est ce qui est magique à mon goût. En fait, tu connais pas du tout l'univers, tu t'attends à voir un film sérieux et qui peut t'envoyer beaucoup d'action, un peu comme les films de Vin Diesel dont on ne parlera pas.
Mais il y a de l'action en plus.
Bah oui, il y a énormément d'action, des scènes de combat très bien gérées. Chorégraphiquement parlant, c'est plus géré dans Hot Shot 2, on va dire, avec les scènes de combat à main nue,
qui sont complètement feu,
qui sont tout simplement géniales. Mais il y a toujours cet aspect au début, c'est sérieux, très sérieux, très sérieux, et au bout d'un moment, petit à petit, on part sur des petits détails qui te rendent la scène hilarante.
Et ce qui est quand même fou, ce film, c'est que c'est comment ils ont fait une compilation de moments cultes du cinéma en un seul film. Ils ont écrit un film que des moments cultes.
Et en même temps, je le redis, mais il y a des gags qui sont pas du tout des références.
Oui.
Hein,
oui.
Et c'est ça qui est bon, quoi.
Bah après, c'est très tiré tout ce qui est Buster Keaton, le cartoon, Peter Sellers. Le passage, par exemple, dans, je sais plus si c'est dans le premier ou dans le deuxième de Hot Shot, où ils rencontrent avec la fille, ils font crac crac boum boum.
Ah, dans le lit là.
Voilà.
Mais dans les deux, il y a eu des scènes.
Ouais. Non, mais c'est dans le deux qu'il y a Basic Astar, mais elle saute du plongeon.
Ouais, je saute un plongeon pour lui sauter dessus.
Avec la jambe qui grince quand elle la lève et qu'elle la tourne aussi, pour décroiser ses jambes.
Basic Astar.
Voilà.
Aussi.
Des petites références comme
faire
ça.
Cuire un œuf sur son corps.
Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'au final, il y a quand même une référence derrière si on arrive à la voir. Mais on va pas se mentir, le gag est là, quoi.
Oui, et c'est pas trop gros, bizarrement. Ouais. Parce qu'au final, oui, certes, faire cuire un œuf sur le corps d'une femme, c'est juste hilarant. Mais en même temps, on garde la sensualité de la scène et ça reste une scène d'amour vraiment intense. Et c'est génial.
C'est-à-dire qu'on a Valeria Golino, je crois que c'est. Valeria Golino.
Je ne sais plus les noms.
Et elle est quand même plutôt jolie.
Tout à fait. Donc bon, en fait, ce qu'il faut, c'est prêter beaucoup d'attention à ce que l'on voit et ce que l'on entend. Ainsi, une main sur une cuisse fera le bruit d'un vieux canapé en cuir, un arbre deviendra une barre de gymnastique, et encore plein d'autres que je vous laisse la joie de découvrir. Mais c'est donc tous ces petits éléments, en fait, la plupart des éléments, comme on le disait, c'est tous les petits éléments ne sont pas des références à d'autres films. Donc il peut y avoir une fenêtre qui devient un cadre d'une vue du ciel, d'une ville, enfin voilà. Il y a tous ces petits éléments qui sont juste magiques. Donc l'humour dans Hot Shot, à la différence des films récents, à le Scary Movie, ou tout autre movie qui existe, et dans le sous-entendu, la plupart du temps, on n'a pas besoin tout le temps d'un visuel pour comprendre ce qui se passe, ou juste pour rire. Bien sûr, il y a d'énormes gags visuels, mais je veux dire par là qu'ils sont tous deux en harmonie, que cela permet de savourer le film comme il se doit, et que l'on peut se payer une bonne tranche de rigolade sans trop d'excès et non forcé. Donc alors, je vous conseille fortement de voir et de revoir ce film, parce que même étant de 1991, il a parfaitement vieilli à mon goût, et il en va de même pour le second, 93, qui est une parodie de Rambo, comme on l'avait dit plus tôt. Ouais. Mais avec les mêmes acteurs, on ne change pas une équipe qui gagne, en effet. Donc sur ce, je vous laisse avec la musique du film Hot Shot. We'll be right back. Et c'était la musique du film Hot Shot.
Ce qui est cool, c'est qu'il n'y a que sur PFM qu'on peut entendre ce genre de musique. Et ça, ça n'a pas de prix.
Et ça, c'est magique.
À noter que du coup, Charlie Sheen faisait partie d'une équipe, faisait duo dans le film avec John Cryer, qui était son partenaire dans Mon Oncle Charlie.
Ouais,
oui,
c'est vrai.
Et
ouais. Et d'ailleurs, Cryer qui vient du verbe crying, qui signifie pleurer. Voilà.
C'est vrai que.
Attends, c'est quoi déjà son nom de son
personnage? Il a un truc du genre Schwimmer ou.
Schwimmer, c'est dans Friends.
Schwimmer, j'ai dit.
Parce qu'il y a pas de bol. Et
merci pour ta blague.
Lui, c'est celui qui louche, de toute façon, c'est celui qui voit rien.
C'est ça.
Ah, je sais plus. Bon, c'est pas grave. On le retrouvera. Et maintenant, nous allons passer.
On lui fait un bisou.
Oui,
s'il nous écoute.
Nous allons passer à quelqu'un de mystérieux, quelqu'un qui a beaucoup moins de cheveux que nous. Je parle bien entendu de Benjamin.
Pourtant la calvitie ça va, je trouve. Hein.
Antoine, il y en a une vraie qui se prépare, tu vois.
Ah oui, moi c'est pour ça que je laisse mes cheveux un peu plus longs.
C'est pour ça qu'il met son casque un peu plus en arrière la calvitie.
Moi c'est clairement pour ça que je laisse mes cheveux un peu plus longs, parce que là j'ai un trou là.
Alors aujourd'hui, je vais vous parler du Kino Cabarrás. Donc attention, débarquement d'un festival prometteur. Aujourd'hui, mes amis, vous l'avez deviné avec le titre, ce sera cuisine locale. Plus sérieusement, je vais vous présenter le Kino Cabarrás, un nouveau festival qui va avoir lieu à Arras, donc du vendredi 10 au dimanche 12 mars 2017. Le festival est mené par l'association Abbey's Road. Le principe est assez proche de celui des 48 heures du court-métrage de Lille ou de Paris. Vous avez 48 heures pour réaliser un court-métrage en suivant un thème imposé. Donc il y a des équipes formées par 6 personnes qui amènent leur propre matos et qui se lancent dans un marathon usant avec peu de sommeil et de repos pour livrer fièrement et dans une certaine fièvre leur œuvre projetée en fin de festival et qui se verra peut-être récompensée par le jury.
C'est une chouette expérience à faire en tout cas. Que le résultat final soit bon ou mauvais, c'est très chouette à faire.
Exactement. Mais la proximité avec les autres festivals s'arrête ici. Au Kino Cabarrás, la particularité du thème est qu'il s'agira de réécrire des scènes mythiques du cinéma.
Un peu comme dans Hot Shot.
Tout est lié.
Cependant, ni image des films, ni ligne de dialogue de la scène mythique donc, qui sera retravaillée, devront se retrouver dans le court-métrage. Aussi, les équipes se formeront le vendredi à 17h et le but est que des inconnus s'allient et s'amusent et créent tous ensemble. Faut pas que les gens se connaissent et par exemple déjà préparé le film, on veut éviter ça quoi. Faut vraiment que ce soit une aventure pour tout le monde.
Ouais.
Donc l'idée elle est bonne, mais elle peut poser certaines questions. Donc premièrement, si des gens qui se connaissent à peine mais qui savent que chacun d'eux a un certain talent dans tel domaine ou un autre, ou que certains ont du très très bon matériel à prêter à l'équipe, et ils peuvent s'allier. Ils peuvent prendre aussi une scène mythique de leur choix, une scène mythique que d'autres ne connaissent pas, mais qui convaincra le jury pour rafler le prix. Vous voyez un peu le souci quoi.
Je vois pas vraiment le souci.
Justement, le
à la rigueur, si tu m'aurais dit par exemple, dans cette équipe, c'est que des mecs sans talent, qu'ils n'ont pas de matériel, et tout ça, et qu'ils n'ont vu aucun film, là, je dirais, oui, effectivement, il y a un souci.
Oui, mais le truc, c'est qu'en clair, il n'y aura pas forcément d'égalité.
Oui.
Si en clair, tous les gros cinéphiles ou ceux qui ont du matos s'allient, et pour former, quelque part, les meilleures équipes, les équipes les mieux préparées à affronter le marathon.
Oui, bon, après, on peut toujours aussi être surpris par la débrouillardise des gens,
exactement.
Je pense.
Mais après, en plus, on parle de scène mythique, mais mythique pour qui, vous voyez?
Mythique, quand j'entends le thème, oui, mais en même temps, c'est très large, ce qui fait que ça peut parler, c'est ça l'intérêt aussi, c'est que ça peut parler de différentes manières à beaucoup de gens. Il y en a certains qui vont peut-être prendre des scènes mythiques pour eux, mais qui ne sont pas très connues, et en leur donner une nouvelle envergure.
Mais justement, alors on aurait pu imaginer qu'un jury juge arbitrairement que la scène ne soit pas mythique parce qu'il la connaîtrait pas. On aurait pu imaginer, mais heureusement, pour contrer ce souci, on a un jury très compétent. Donc, mais vraiment très très compétent, qui est composé d'un professeur de cinéma de l'université d'Artois, monsieur Pierre-Éric Gel, de deux cinéastes, Stéphane Degnaud et Marc-Henri Boulier, ainsi que de Violette Delap, conseillère municipale à l'accès de la culture pour les jeunes, et enfin Nadia Pascetto, co-responsable du Arasum Festival.
Ouais, ça c'est. Ouais, du coup, bon, j'avoue qu'ils ont un jury assez intéressant. Oui.
Bah voilà, du coup, on a un large spectre de connaissances et de compétences pour juger avec justesse et
chacun
sagesse.
Dans des domaines différents. Ça va être. Non, c'est un bon choix de jury.
C'est ça, au moins, comme vous dites, il y a des scènes, bah, par exemple. Si je cherchais du côté du cinéma italien, il y a des scènes mythiques.
La Dolce Vita.
Voilà, que certains ne connaîtront pas. Ou même du cinéma japonais.
Tu pourrais faire la scène de la fontaine, par exemple. Tu pourrais faire la scène de la fontaine et la fontaine Neptune.
Et exactement. et du coup, c'est ça qui est bien. C'est qu'en tout cas, on a un très bon jury. Et je pense qu'ils sauront travailler
oui,
ça. Quoi.
Oui, oui. Mais puis après, Pierre-Éric Gel est aussi un professeur d'université d'Artois qui a quand même amassé pas mal de connaissances. Enfin, on sent que c'est un mec qui aime beaucoup le cinéma. Il aime transmettre. Je pense que le fait d'avoir aussi cette personne-là dans le jury, c'est aussi ça va aussi permettre aussi
exactement,
aux gens de se libérer.
Et en parlant de participation, c'est gratuit.
Ah,
pas mal.
Parce que c'est payant, il me semble, Lille.
Oui.
Ouais.
À noter que vous aurez de quoi vous remplir la panse midi, soir et matin normalement, et cela gratuitement.
Eh oui,
parce que Flench et Speed Rabbit assurent les catering. Oui, je le dis avant que vous ne vous posiez la question, le festival naissant s'est entouré de chouettes partenaires, de Flench à la mairie d'Arras, en passant par Bowling World. Donc la jeune entreprise audiovisuelle, donc originaire d'Arras, Objectif Film, aura entre autres tâches d'accompagner les équipes, soit de les guider techniquement ou même au niveau de la création.
C'est qui ces blaireaux?
Ah bah, on le sait vu qu'on en a fait un peu... Hein ?
Non.
Non. Donc, le marathon prendra place à l'espace Marcel Roger.
Ouais.
Donc, notez que les participants pourront s'y reposer, mais pas dormir. Donc, surtout, soyez prévoyants quant à votre hébergement.
D'ailleurs, c'est assez drôle parce que vous savez où on est, là ?
Ah oui.
À l'espace Marcel Roger.
C'est ça qui est bon.
C'est ça. Eh oui, dans les nouveaux locaux de PFM. Et c'est vrai qu'on est bien dans les nouveaux locaux de PFM.
Et vu qu'on a un mois de retard, je pense que tous les auditeurs étaient au courant.
Ça se trouve, il y en a, ils sont partis un mois à l'étranger.
Donc la projection et la remise des prix sera ouverte à tous et aura lieu dans la salle de la ruche à la maison des étudiants de l'université d'Artois.
Ah, c'est bien ça, une belle petite
Antoine,
salle.
Antoine, je te vois venir et...
Ah bon?
Oui.
Bah, en même temps, je suis à côté de toi.
Je vais venir et je vais en parler avant que tu ne poses la question. Espèce d'andouille. Oui, on peut gagner quelque chose.
Ah bon? Bah dis-moi, Benjamin, c'est bien joli tout ça. Mais est-ce qu'on gagne quelque chose à la fin?
Mais oui, Antoine.
Ah bah,
on peut
ça
gagner
alors.
Quelque bah, chose.
Qu'est-ce qu'on gagne?
Alors, sachez que tous les participants gagneront quelque chose.
Ça, c'est
pas mal.
Bah, mais le gagnant, il gagne un plus gros lot.
Ah là, les premiers gagnants auront droit à une projection de leur film au MMI d'Or, donc qui est une soirée de projection de court-métrage organisée par la section MMI de l'IUT de Lens,
bien.
Ainsi que des affiches de cinéma et des passes étudiants.
Eh bah, ben c'est sympa comme prix, hein, dis donc.
C'est sympa.
Ouais.
Et enfin, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur le site donc abaseroad.wixsite.com/kinokabara/participer.
On mettra le lien dans la vidéo Mixcloud, enfin
Mixcloud. Ouais. Aussi, tout le monde peut participer à partir de 16 ans. Et pour plus de renseignements, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse asso.abaseroad@gmail.com. Vous êtes excité?
Ah bah franchement, oui.
Très.
Et maintenant, une musique que j'apprécie, qui n'a pas forcément de rapport avec l'événement, mais que j'ai envie de partager avec vous.
Master of UT de Lens.
Non, okay. Yamayama par les Yamasuki.
Oh oui.
Yamayama.
Je suis ravi que tu nous aies fait découvrir ça, Benjamin. Vous êtes toujours sur PFM 99.9 avec les Décadrés. Et c'était une musique qui s'appelle Yamasuki, Yama Yama.
Les Yama de Yamasuki.
Et d'après de 1971, apparemment.
Oh oui.
Il y avait déjà du rythme à cette époque-là.
C'était groovy.
Oh yeah.
Ah, puis il y avait les petits enfants chinois qui chantaient. Moi, ça, c'est un petit côté Primark dans cette chanson, Primark de l'industrie musicale. C'est... Excusez-moi.
Je te sens en forme, je te vois un peu sautiller sur ta chaise, Antoine, juste avant. Ouais. Alors, on va passer à toi. De quoi vas-tu nous parler ?
Ah, c'est une surprise.
Bon, bah, ok.
Eh oui, chers auditeurs du 99.9, nous sommes de retard. Enfin, pardon, de retour. Oui, ouais, petite blague sympa.
Oh, les comiques.
Jeu de mots. j'ai mis une heure à la trouver, celle-là, en écrivant. Hein, donc, ils font un peu de respect.
Ouais, quand même.
Alors, voilà, de retour pour une petite émission décadrée. Et pour tenter de me faire pardonner de ce retard, j'ai décidé de m'infliger une petite punition. Et si vous nous suivez depuis nos débuts, vous avez peut-être dû entendre ma chronique sur la série Scream, ainsi que mon autre papier sur le premier épisode de la saison 2. Et bah aujourd'hui, c'est l'heure du bilan. On va faire un petit constat de la saison 2. J'ai donc passé mon Noël devant cette série à me faire du mal dans un premier temps, mais pour ensuite me retrouver surpris par quelques épisodes. Cette chronique sera donc un remake d'un remake. Je ne sais pas s'il n'y a appellation pour ça, Benjamin.
Re-remake.
Ok, bon, on s'en contentera.
La mort.
Ok, bon, on va se contenter de remake d'un remake. Mais avant d'aller plus loin, petit résumé. De l'eau a coulé sur les ponts de la petite ville de Lockwood. Après la déferlante de meurtres, le calme et la paix semblent être enfin de retour. 3 mois se sont écoulés depuis la tuerie, et après avoir suivi une thérapie bien corsée comme on l'imagine, Emma Duval, l'héroïne, fait son grand retour à Lockwood. Les jeunes survivants décident de se retrouver pour fêter cela. Mais malheureusement, la joie ne sera que de courte durée, puisqu'Audrey reçoit un appel menaçant d'une personne qui utilise une application pour changer sa voix. Le second acte Scream s'ouvre et le massacre va bientôt commencer. Alors, pour commencer, il y a un problème. Et pour vous l'expliquer, je vais vous spoiler. Alors, si vous comptez regarder la série ou si vous êtes en train de la regarder, je vous déconseille d'écouter cette chronique. Je vous laisse donc 5 secondes pour passer à l'émission suivante.
5, 4, 3, 2, 1, go!
Voilà, merci Benjamin, tu fais un très bon chronomètre. Alors... Du coup, problème. Donc, comment expliquer le retour d'Emma à Lockwood ? Eh ben, je vais vous dire franchement, on s'en fout. Voilà, on s'en fout. Bon, j'exagère, c'est vrai, mais je suis toujours stupéfait par mon manque d'empathie pour ce personnage que je trouve agaçant au point d'espérer de le voir mourir à chaque épisode. Mais bon, si elle meurt, la série s'achève. Donc bon, on va passer. Alors déjà, vraiment, le problème de la série, c'est que ça commence un peu mal puisque nous apprenons que la complice de Piper Shaw, hein, bon... Je ne l'avais pas dit dans la première truc. Piper Shaw, journaliste, fille de Brandon James, mais également la tueuse, avait pour complice Audrey. Et Audrey, en fait, on nous l'a montré comme complice. Après un nombre incroyable de stratagèmes ridicules, du genre avec des lettres, des photos, des commentaires audio, enfin plein de choses en genre.
C'est quoi déjà ces noms, Piper Shaw et Brandon James?
Ah bah c'est Lockwood. C'est la petite province de Lockwood. Qu'est-ce que t'emmerdes les gens, toi? Dis donc. Alors du coup, on imagine que Audrey était en fait la deuxième tueuse. Et en fait, on apprend que non, pas du tout. Il y a bien un complice tapis dans l'ombre, mais en fait, c'est pas Audrey qui, au final, n'a été qu'un instrument de la vengeance de Piper Shaw sur Emma Duval, qui se révèle être sa petite sœur. Ouais, ça, parce que c'est un peu Roméo et Juliette,
j'ai
cette histoire,
compris.
C'est un gros bordel. Ouais. Des changements qui peuvent s'expliquer par l'arrivée des deux nouveaux showrunners, Michael Gans et Richard Register, qui ont voulu étendre les champs de possibilités de ces séries, qui a des goûts de teen show slasher. Alors c'est moi qui ai inventé le terme et je vous avoue que j'en suis pas peu fier. Sauf que bon, cette saison 2, même si elle est loin d'être parfaite, elle a quand même le mérite de proposer une réalisation et des structures scénaristiques différentes de la première et qui cherchent quand même à nous surprendre. Et encore une fois, je vous dirais, sauf que c'est également le défaut de cette seconde saison puisqu'on n'est plus vraiment dans un slasher. Bien que la série passe son temps à nous rappeler à travers des références méta à la con que nous sommes bien dans une série slasher, la réalité est que la chasse à l'homme qu'entreprend le tueur ressemble plus au film Saw, en fait. Cela dit, cette comparaison avec Saw n'est pas mauvaise puisqu'on nous offre des scènes un peu plus gore et comme la réalisation a fait aussi un effort de son côté, on a le droit à des beaux moments de mise en scène. On sort un peu du teen show plan-plan de la saison 1 et on arrive à une confrontation plus adulte face à la réalité où les proies, ici les 6 de Lakewood, vont devoir redoubler d'efforts et de vigilance. Du coup, bah, les personnages, bah oui, sont moins cons, forcément. Autant cette chasse à l'homme est plutôt ennuyeuse, puisqu'on comprend aisément comment va vouloir procéder le tueur, autant le fait de mettre en danger les personnages redonne une certaine efficacité au scénario. Et là oui, on a enfin de l'empathie pour les personnages, pas trop, mais juste ce qu'il faut pour nous maintenir. Cependant, la série a la fâcheuse tendance à créer du suspense. Trop de suspense, inutile, qui ne sert à rien sauf à brouiller les pistes quant au mobile et l'identité du tueur. De plus, ce surplus de suspense est alimenté par le personnage de Miguel Acosta, le nouveau shérif de Lakewood, qui pense que le tueur se trouve parmi les 6 de Lakewood. Les scénaristes, en fait, bah, ils brouillent eux-mêmes les pistes, ce qui fait que la révélation du tueur, à la fin, qui devrait être le point culminant de la série, hein, on est d'accord, et bah, tu t'en bats les steaks. Hein, clairement.
Il y a combien d'épisodes ?
Il y a... je sais plus, je crois que... Il y en a un peu moins que la première saison, mais il y a un épisode spécial à la fin, spécial Halloween, un épisode de 1h30.
Mais ils ont peut-être du mal à tenir la route.
Je ne sais pas. Après, le souci, c'est que voilà, le fait que c'est que par exemple la révélation de fin, quand on apprend qui est le tueur, je ne vous le dirai pas. Bah, en fait, ça fait l'effet d'un goutte d'eau dans un océan d'informations et d'indices qui a été mis petit à petit au fur et à mesure de la série. Mais en fait, voilà, on s'en fiche et c'est retranscrit à l'écran d'une manière tellement arbitraire et c'est tellement mis en scène que ça ne touche pas, ça ne surprend pas, ça ne choque même pas. Et quand on apprend le mobile du tueur, bah, on arrive à se dire que c'était bien la peine de s'asseoir dans ce canapé et de se taper une connerie pareille, en fait. Hein. C'est la fin. Autant le milieu de la série a des épisodes vraiment excellents avec une bonne réalisation, autant bah, à la fin, on s'en fout. Par ailleurs... Juste pour conclure, il a été annoncé qu'une troisième saison devrait voir le jour en 2017.
Oh non, mais pas Wes Craven, quoi.
Et comme vous vous en doutez, je serai là pour veiller au grain, mes amis.
Eh bien, merci Antoine, c'était une très jolie chronique. Et,
ah bah, de rien.
Et on va se quitter donc pour cette première émission. On se dit à la semaine prochaine pour la deuxième.
À la semaine prochaine.
Bye bye.
Bye.
1, 2, 1, 2, 3.
Peux-tu me faire une voix plus claire ?
Tonight we present a very warm little story called Kill With
Time.
Avec Benjamin, Antoine et Monel, 11.
J'écoute, ça va arriver, les voisins.